Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 28 novembre 89.
Je vais terminer avec vous ce que nous avions vu déjà depuis plusieurs cours, ces diverses modalités de l'acte. Comprenez bien que c'est dans la lumière de l'être en acte qu'on regarde dans les diverses parties de la philosophie où nous retrouvons comme l'écho, la trace de l'être en acte. En éthique, saisir dans l'être ce qu'il y a de premier. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'opération vitale intellectuelle quelque chose qui n'est pas limité, qui est acte. Et je vous disais que pour l'amour, l'amour volontaire, l'amour dans ce qu'il a de plus radical, qui saisit le bien, qui est attiré par le bien, même si de fait cet amour se réalise toujours pour nous dans un mode limité, l'amour est extatique, il nous fait sortir de nous. Mais comme l'amour en même temps creuse en nous une capacité d'accueil, ce que nous voyons parfaitement dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié nous fait rejoindre l'ami tel qu'il est, en tant qu'il est mon bien. Et en même temps, l'amour d'amitié creuse en moi une capacité de recevoir l'ami. Donc, l'amour est au-dessus de l'extase et de cet accueil, puisqu'il est les deux. Et c'est en ce sens-là que je peux saisir que l'amour réalise une certaine unité à l'égard du bien. Il n'implique pas en lui-même une limite. Je le saisis toujours à travers ces deux extrêmes, l'extase et la capacité d'accueil que l'amour creuse en moi. Je suis accueillant dans la mesure où j'aime. On s'en aperçoit bien dans notre vie. Donc il y a là quelque chose, et on retrouve ça dans l'amour d'amitié, idem velle. Il y a donc dans l'amour une tendance à l'unité, puisqu'on veut l'unité du vouloir. C'est un petit signe. Mais c'est surtout en voyant les deux extrêmes de l'amour. La cinquième modalité de l'être en acte, c'est le mouvement. Dans le monde physique, alors là encore, comprenons bien que le mouvement en lui-même est toujours limité parce qu'il implique la puissance, tandis que l'amour ne l'implique pas, l'opération vitale ne l'implique pas à cause de son immanence. Tandis que le mouvement, il implique toujours une potentialité. L'acte, c'est comme ça qu'Aristote définit le mouvement. Et cherchez bien, vous ne pouvez pas le définir autrement. C'est pas parce qu'Aristote le dit, mais c'est parce que si j'étudie ce que c'est que le mouvement, le devenir dans le monde physique, l'acte de ce qui est en puissance, c'est très fort. Le mouvement implique la potentialité. Et c'est nécessaire, puisqu'autrement il ne serait plus le mouvement. Il n'y aurait plus le devenir, la possibilité de changer. Le mouvement est saisi dans sa capacité de changer. Autrement, ce n'est plus le mouvement. Vous pouvez saisir le résultat du mouvement, l'œuvre du mouvement, mais ce n'est plus le mouvement. Le mouvement comme tel est saisi comme quelque chose qui coule toujours, le pantaré, ça coule toujours, ça change tout le temps. Et donc il possède en lui-même sa propre capacité de changement. Il y a quelque chose qui change, et quelque chose qui demande de changer tout le temps. C'est très étonnant ça. Donc il y a une potentialité, et cependant il y a l'acte. dans mon expérience, je peux affirmer ceci est dans le présent, qui est la seule actualité de ce qui est mu. Je saisis l'acte. Alors, vous voyez, il est donné à travers le présent. Mais là, je saisis vraiment l'être en acte, mais pas libéré de son conditionnement. C'est pour ça que c'est une méta-expérience. Le chemin d'existence est toujours lié au présent. Ceci est. Donc voilà les cinq modalités. On pourrait se poser la question, y a-t-il d'autres modalités ? Alors, cherchez. Quand vous en aurez trouvé, vous me le direz. Ça m'intéresserait.
J'attendais
le mot. Oui, je suis tout à fait d'accord. La propriété, mais c'est donc pas l'être en acte. La propriété, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est propriété. C'est au fond le beau n'atteint pas directement l'être. C'est la splendeur de la forme.
Est-ce qu'il ne peut pas être une voie d'accès à la découverte
de Dieu? Pas directement. Peut-être une voie d'accès comme un tremplin. Vous savez, il ne nous fait pas atteindre directement l'absolu. Mais je comprends très bien que ça se pose. Ça s'est posé du reste. Maritain le met comme un transcendantal. Et donc comme un mode de l'acte. Il n'y a pas que Maritain. Le père Garrigou-Lagrange l'avait dit avant Maritain. Parce que c'est père Garrigou-Lagrange qui dit que le beau est la synthèse et transcendant tout. Et Maritain répétait ça. Alors, ça ne va pas du tout. D'abord, c'est pas un transcendantal. Et deuxièmement, il n'y a pas de synthèse et transcendantaux. Alors, il y a deux erreurs contenues dans cette affirmation. Si vous voulez, synthèse et transcendantaux, cherchez, elle n'existe pas. Il n'y a pas de synthèse. Puisque chaque transcendantal implique une raison, une ratio absolue. Il y a le beau et le bien commun. Modalité nouvelle de l'acte. Parce que le bien commun est toujours une œuvre de l'homme. Je réalise le bien commun d'une communauté. C'est le fruit de mon labeur. Et c'est ça qui m'engage dans la communauté. Donc, il ne peut pas être au sens strict. Vous allez me dire, c'est comme les opérations vitales. Oui, mais attention, les opérations vitales demeurent immanentes au vivant, tandis que le bien commun n'est pas immanent au président de la République ou au roi ou à la reine. Il n'est pas immanent. Il y a quelque chose d'extrinsèque. C'est une œuvre de plusieurs et qui attire comme une certaine fin, mais pas comme un absolu. Oui, tous les autres sont reliés à quelque chose de substantiel, à quelque chose de premier. Alors, ce qui est très curieux et ce qui serait très intéressant à bien voir, chacune de ces modalités de l'acte, chacune, assez le bien, le vrai, les opérations vitales, spécialement les opérations vitales spirituelles, et puis le mouvement. Cinq modalités de l'être en acte. Et ça divise l'être en puissance. L'être en puissance, la substance, en tant qu'essence, non, dans sa capacité d'essence, reçoit l'essai, ou dans sa capacité d'être subsistant, c'est mieux. La substance subsistante est actuée par l'acte. Le bien, la volonté est capable d'attirer vers le bien. Le vrai, l'intelligence, tout ça c'est l'être en puissance. Les opérations vitales, nos puissances vitales, intelligence et volonté avant tout, et puis le corps capable d'être bu. Chaque fois, je peux dire que l'acte est antérieur à la puissance, d'une antériorité absolue.
foi de l'existence de Dieu dans la vie saine. Et est-ce que, on a vu ce matin, semblait-il, que Avicenne regarderait la modalité de l'acte au niveau de l'essai. Est-ce qu'il n'aurait pas oublié d'étudier les quatre autres?
Elles ne sont pas dans Avicenne, je crois pas, dis-moi. Vous voyez, Avicenne, il faut être là, très délicat, parce que c'est très difficile. Hein. Il y a l'Avicenne latin.
Je parlais pour l'Avicenne arabe qu'a traduit Boisson.
Oui, il y a l'Avicenne latin et l'Avicenne arabe. Hein? Oh, l'Avicenne arabe est le seul complet. Puisque l'Avicenne latin n'est pas complet. Alors, dans l'Avicenne latin, celui donc qu'avait Albert le Grand, et Thomas d'Aquin, au début. C'est très vrai que l'acte n'est pas saisi comme fin, mais comme un état. Vous voyez ? Mais, alors là, je ne peux que me référer au livre de Finianos, qui avait étudié l'Avicenne arabe. Que Finianos est un phénicien habitant la Syrie. Il enseigne à l'université de Damas actuellement. Il enseigne l'histoire de la philosophie. Et dans son étude sur Avicenne, pour lui, Avicenne aurait vraiment la manière dont on dit que l'être en acte est fin. Mais les cinq modalités ne sont pas précises.
Mais justement, est-ce qu'il n'aurait pas précisé uniquement la première ?
Oui. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Pour la Avicenne latin, c'est tout à fait juste. Mais j'ose pas le dire. Avicenne tout court. La Avicenne latin aurait saisi uniquement celui-là. Identifier ça avec l'être en acte. Et Gilson fait une erreur analogue quand il dit que l'essai est plus que l'être en acte. Au plan métaphysique. Mais ils font tous les deux une erreur analogue, c'est-à-dire ne pas saisir la différence entre la ratio actus et tel mode, même si ce mode est premier. C'est pas la même chose. Hein. La ratio actus métanée dans la saisie de l'être en acte, distincte de l'être en puissance. C'est bien ça que vous voulez dire.
Oui. Vous référez simplement au livre de Boisson que nous a dit ce matin.
Oui. Bon, alors, on ne voit pas plus que ça, c'est pas la peine. Mais ce qui est intéressant ici, moi, ce qui m'intéresse profondément, puisque ce n'est qu'au moment où métaphysiquement on découvre les cinq modalité de l'être en acte, que les cinq fois saint Thomas deviennent intelligibles. Autrement, elles ne sont pas intelligibles. Mais une fois qu'on a saisi ces cinq modalités, alors on se dit ah oui, très bien. Saint Thomas ne les dit pas, vous voyez, il ne les dit pas tout à fait de la même façon, parce que, mais au fond, c'est sous-jacent à toutes les voies de Saint-Thomas. Puisqu'on ne peut atteindre l'existence de Dieu que par l'acte. L'être en acte, alors la première voie, on voit très bien, il part du mouvement. je ne donne pas plus. Hein. Puisque ce n'est pas l'objet du cours, les cinq fois. Et si c'était l'objet du cours, les cinq fois, ben je m'arrêterai. Vous comprenez bien. Je vous laisse là, le soin. Alors, continuons pour avancer. Après avoir découvert d'une part l'osia, la substance comme principe selon la forme de ce qui est, et découvert l'être en acte. l'influence reste Heidegger. Mais Heidegger ne dit pas que l'un est avant l'être. Je ne crois pas, du moins. Si vous trouvez une phrase de Heidegger où il dit ça, vous me le montrerez. Je n'ai pas lu tout Heidegger. Mais je n'ai jamais vu, il me semble. Alors, vous voyez que il faut bien reconnaître que tout un grand courant néo-platonicien met l'un avant l'être. Pourquoi? Parce que l'être est identifié à l'intelligibilité. L'être égale l'idée d'être égale l'intelligibilité. Il y a identification entre être et idée d'être, ce que Heidegger n'accepte pas. Et c'est pour ça qu'il ne met pas l'un au-dessus de l'être. Tandis qu'au contraire, chez Platon et chez tous les néoplatoniciens, c'est pas l'être qu'on regarde, c'est l'idée d'être. Alors à ce moment-là, on a la multiplicité des intelligibles. Et au-delà de cette multiplicité des intelligibles, il y a l'un qui mesure cette multiplicité. Autrement dit, l'être est toujours donné dans la multiplicité. Et l'être n'est pas saisi dans ce qu'il a de tout à fait premier, dans un jugement d'existence. Ça, il faut bien comprendre cette position, parce que elle est présente constamment, constamment, constamment. C'est tout le néoplatonisme. C'est ce qu'Aristote a critiqué le plus à Platon. Ça qu'il arrive le plus critiqué, c'est que l'un n'est pas avant l'être, et donc l'être relatif à l'un. Mais c'est l'inverse. L'un est propriété de l'être, est acolyte de l'être. Partout, l'être et l'un courent après. L'un est présent. Donc on a le point de vue de l'un comme acolyte relatif. Se demander si dans Hegel l'un est avant l'être dans une pensée dialectique, puisqu'on oppose l'être et le non-être. Alors est-ce qu'au fond on ne retrouverait pas quelque chose d'analogue? Une question importante à se poser dans la synthèse. La synthèse est tout, c'est pas un homme. Alors pourquoi Aristote dit ça? C'est tout simplement l'expérience, le langage est un signe qui me montre que l'un est postérieur à l'un. L'être s'exprime dans un verbe, tandis que l'un dans un attribut, dans une qualité. Et donc le verbe va plus loin, il s'identifie au nom substantiel. Pierre existe. Pierre est un. C'est second, c'est quelque chose qui vient qualifier Pierre, tandis que le verbe s'identifie avec la réalité prise substantielle. essentiellement. Ce n'est qu'un signe, mais c'est un signe de langage. Et l'affirmation de l'un comme propriété de ce qui est, je l'expérimente. C'est que je vois l'être est un et multiple. Il est un quand il est en acte. Il est multiple à cause de sa potentialité, à cause de ses limites. Je peux donc la préciser au plan proprement métaphysique que l'un affecte ce qui est dans la mesure. Ce qui est en acte. L'un affecte ce qui est dans la mesure où ce qui est substance. Nous avons donc deux raisons qui unissent l'un à l'être. L'être en acte. Substantiel. L'être est un parce qu'il est en acte. L'être est un parce qu'il est substance. Parce qu'il peut être substance. Dans la mesure où l'être est acte, il est un. Dans la mesure où il est substance, il est un. Vous voyez, là, nous avons une conclusion scientifique au sens aristotélicien. Et c'est en ce sens-là que pour Aristote, la métaphysique